Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dripping. Je suis ravi d'accueillir Christophe aujourd'hui avec un format qui est un peu hybride entre les formats Highlight et le format Ligue des Futurs Champions, et vous comprendrez pourquoi. Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre.
Christophe, tu es le patron du digital à la Ligue de football professionnel. On se l'est dit 15 fois en off qu'il fallait le dire comme ça, mais j'y arrive quand même pas.
Mais il est bien sorti, ça y est.
Ouais, super. Et on a décidé d'enregistrer un épisode ensemble, et je te remercie vraiment. Mais avant de rentrer dans le détail du sujet qui va aborder la digitalisation d'une ligue, qui va aborder l'avènement d'un fonds d'investissement dans une ligue, et notamment, on parle bien évidemment de CVC, on va passer un petit moment sur toi et ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, un peu les expériences les plus significatives avant de rejoindre la ligue?
Tout à fait. Bah déjà, merci pour l'invitation, puisque je suis... J'arrive à écouter tous tes épisodes, mais j'en ai écouté une partie, donc je suis ravi d'être invité aujourd'hui. Alors déjà, avant la Ligue, parce que moi je travaille à la LFP depuis 6 ans, j'avais exclusivement fait ma carrière dans le digital, donc une carrière d'un peu plus de 10 ans, notamment en start-up et en agence de communication. Donc j'ai plutôt commencé en start-up, notamment dans une agence qui s'appelait... eSearch Vision à l'époque, qui s'appelle maintenant ESV Digital, qui était un pionnier du référencement, pour ceux qui connaissent bien le marketing digital, à une époque évidemment à la fin des années 2000 où le digital n'était pas aussi gros que maintenant. Donc c'était le moment où le digital commençait son hypercroissance. Et j'ai passé quelques années là-bas. Ensuite, je suis parti dans une startup qui s'appelle Fastbooking, qui est une startup dans le voyage. Où là j'ai eu plusieurs métiers, j'ai continué à faire de l'acquisition de trafic, du marketing digital, j'ai fait du product management, j'ai touché un peu à tous les métiers du digital, et j'y suis resté quelques années jusqu'au rachat de cette startup par le groupe Accor. Mmh. Et dans la foulée, je suis retourné en agence, mais dans une agence un peu plus grosse au sein du groupe WPP. J'ai rejoint les rangs d'Ogilvy, qui est une des grosses agences pionnières. Du groupe WPP, où là j'ai continué à faire du conseil en transformation digitale à destination de gros clients, et mes deux clients principaux c'était Nestlé et IBM, et j'y ai travaillé pendant 3 ans. C'était super, et effectivement jusqu'en 2017 où s'est présenté l'opportunité de la LFP.
Ouais. Sur ton LinkedIn, quand tu te présentes, tu mets audience development ou développeur. Tu vas nous expliquer pourquoi déjà tu l'as formulé comme ça, mais peut-être est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de rejoindre la LFP après ces années d'agence?
C'était une opportunité, vraiment, puisque la Ligue recherchait en 2017 un directeur du digital. L'objectif, c'était de structurer un département du digital. Mmh. Avec une roadmap qui était très ambitieuse, puisque effectivement, en 2017... il n'y avait pas vraiment de stratégie encore dédiée ou de staff dédié sur le digital, ou très peu au sein de la Ligue.
C'était quoi, si tu prends une photo à l'époque en 2017, t'arrives, il y a quoi sur le digital à la Ligue?
Il y a un community manager, Thibaut, qui est toujours dans mon équipe, et Charles Hervé, qui est rédacteur web et qui est également toujours dans mon équipe, mais qui on va dire, contribuent sans réelle stratégie, un site web et des réseaux sociaux qui étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Ce qui est aussi très sexy dans le projet, c'est qu'à l'époque, un plan stratégique est construit à la LFP avec un gros pilier autour du digital. Donc effectivement, quand on me pitch le projet, un, il y a tout à créer, deux, il y a tout à faire, et trois, dans un environnement qui est... très excitant pour moi, parce que je suis fan de sport de la première heure, fan de football et encore plus fan de Ligue 1.
Un club en particulier?
Un club en particulier, celui de la capitale, même si on n'a pas trop le droit normalement de donner nos préférences, on reste assez neutre, mais oui, moi toujours supporter, j'ai grandi à Paris, j'ai supporté le PSG, j'ai toujours adoré la Ligue 1, j'ai même beaucoup plus regardé la Ligue 1 que les autres championnats. Enfin, moi je ferais vraiment partie de cette population de gens qui préfèrent regarder, entre guillemets, un petit match de Ligue 1 qu'un énorme match de Première Ligue ou de championnat espagnol. Donc c'était une super opportunité, parce que c'était un vrai projet de transformation digitale structurant dans un milieu qui me passionnait.
Ouais. À l'époque, même si on a vu que, et on va en reparler, la Ligue a fait d'énormes progrès, notamment sur le digital, il y avait un retard qui était monstrueux par rapport à ses petites camarades européennes. Quand tu arrives et que tu fais cette première photographie, tu dis il y avait deux bonhommes quand tu arrives. C'était quoi l'équivalent en Première Ligue ou à la Liga? Les équipes digitales, c'était structuré comment à l'époque?
Mais c'est vrai, en plus, on fait un premier benchmark en arrivant, puisque c'est vrai que si tu veux rattraper ceux qui sont devant toi, faut regarder ce qu'ils ont déjà fait, et notamment comment ils se sont structurés et staffés. En termes de staff, c'est pas... pour moi, il y a une ligue qui sort du lot à l'époque. C'est vraiment le championnat espagnol, la Liga, parce qu'eux, ils ont déjà des équipes très staffées sur le digital. Pourquoi ? Parce que le plan stratégique que nous, on a entamé en 2017, eux, ils l'ont peut-être entamé 2 ou 3 ans avant, en 2014-2015. Donc, ils ont commencé à structurer de véritables équipes sur le digital. Mais le principal retard au-delà du staff, il est sur comment tu fais vivre ton produit et comment tu le promeux auprès d'audiences digitales. Donc effectivement, les réseaux sociaux qui sont quand même le fer de lance pour développer la notoriété et la visibilité d'un produit, au sein de la Ligue, il y en a très peu. Il y a un compte Facebook, un compte Twitter, ça vivote, mais il n'y a pas une vraie stratégie de contenu dessus. Et ensuite, pour reprendre ce terme effectivement qui me caractérise, parce que c'est un peu le fil rouge pendant ma carrière professionnelle, c'est le développement d'audience, c'est comment on arrive à créer du contenu et à le pousser à la bonne audience. Donc à cette époque-là, et c'est notamment la première phase de la roadmap, c'est comment on va créer du contenu qui va intéresser les fans de football et notamment les fans de Ligue 1 et de Ligue 2 sur le digital.
Ouais. Ce shift en 2017 donc, qui intervient avec ton recrutement, donc on se dit on va avoir une strat, on va recruter un profil plutôt senior qui va implémenter une strat. Pourquoi il y a eu ce déclic à la Ligue ? C'est juste, on s'est dit, les gars, ils sont en train d'arriver très vite, ou est-ce qu'il y avait un intérêt business à le faire ? C'était quoi les schèmes de pensée à l'époque pour dire, allez, on se met au digital ?
À l'époque, ça part vraiment d'un plan stratégique qui est beaucoup plus large au niveau de la LFP, où dans ce plan stratégique, on retrouve du digital, mais il y a évidemment un développement à l'international, développement de la marque. Il y a des thèmes aussi forts qui reviennent et qui, je pense, peuvent être dans beaucoup de plans stratégiques de boîtes hors football qui sont l'innovation notamment. Donc, c'est un pilier qui est très fort, mais qui on construit les premières briques. C'est-à-dire qu'on se dit déjà, le premier constat, c'est qu'on est en retard. Et ça, il n'y avait aucun tabou en interne et moi, j'avais absolument aucun tabou en arrivant. On parle des autres ligues, mais moi, j'avais même, une analyse qui était beaucoup plus poussée, qui était le sport, de manière générale, était en retard dans sa digitalisation. Il y a des industries qui se sont vite digitalisées. Et c'est vrai que dans le sport, en 2017, quand j'arrive, je ne me dis pas que les principaux clubs sont très digitalisés, à l'exception peut-être de certains. Et quand je regarde les autres sports, évidemment, je laisse de côté les sports américains, je me rends compte que sur beaucoup de choses, la promotion, la pratique, toutes les grandes dimensions aujourd'hui qui font notamment le collectif Sportech, je me rends compte qu'il y a beaucoup de retard. Donc ça s'est beaucoup structuré depuis, mais le premier écueil, c'est de se dire qu'on est en retard.
Ouais. Et on est en retard. Et toi, ton premier métier, tu as dit, c'est de créer le contenu et de la pousser à la bonne audience. Et déjà, c'est la première étape de la roadmap, le premier étage de la fusée, c'est augmenter la visibilité, la notoriété, puis ensuite monétisation et tout ça, c'était déjà à l'ordre du jour à l'époque, ou comment c'est panaché un petit peu tes différents objectifs sur le digital ?
En fait, la première, comme très souvent, quand on part d'une feuille blanche, la première roadmap, elle est extrêmement ambitieuse. Ouais. Donc effectivement, il y avait tout un volet qui était création de contenu, développement des audiences, création de plateformes propriétaires, donc avoir des sites web avec de l'embasement, récolter de la data pour finir sur de la monétisation, qui est aujourd'hui tout simplement, ça n'a pas changé, c'est un peu le funnel de création de contenu, d'embasement et de monétisation qu'on suit dans une roadmap digitale et qui, je pense, n'est pas spécifiquement propre au football. Donc à l'époque, il y a quelque chose d'assez ambitieux. À l'époque, on travaillait avec La Fourmi, qui est une agence qui nous a accompagnés justement dans le déploiement, l'écriture de cette stratégie, puisqu'effectivement, on n'était pas staffé. Donc d'avoir une agence qui a un très fort ADN digital, qui justement avait cet input possible à nous donner les différentes briques qu'il fallait développer, notamment cette partie création de contenu. Mais quand on construit le premier étage de la fusée, on essaye de se dire... il faut, entre guillemets, choisir ses batailles. Si on essaye de tout faire en même temps, ça ne marchera pas. Et en plus, il y a un système d'entonnoir qui est très fort. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux embaser des fans ou recruter des fans et les monétiser, il faut quand même déjà avoir un premier étage de la fusée où tu les intéresses à tes contenus sur les réseaux sociaux notamment. Donc, c'est pour ça que le premier étage, ça a vraiment été de créer des contenus, d'avoir une grille vidéo typiquement propre aux réseaux sociaux, d'avoir des contenus qui sont live or live, de vraiment construire une grille qui permette à la Ligue 1 d'exister à peu près 7 jours sur 7 et 24-24, ce qu'on n'avait pas du tout avant.
Ouais. Quand tu faisais le comparable un peu avec des boîtes normales sur la visibilité, notoriété, créer de l'audience et monétiser tes audiences, vous, c'est le métier, enfin le métier de la ligue, c'était aussi d'avoir une IP forte, de la monétiser auprès des ayants droit, enfin auprès des diffuseurs, et c'est reste toujours le principal levier de monétisation de la ligue. Comment toi t'arrives à dire bon bah on va augmenter la noto, la visibilité, peut-être in fine on va monétiser ses audiences, mais c'est pas grand chose ou très très peu par rapport aux droits télé qui sont la principale manière de rémunérer cette ligue. Derrière ma question, c'est comment déjà tu fais pour te faire une place dans le PNL, tu vois, et deuxièmement, comment tu fais quand tu as ce contenu qui est en fait revendu à des diffuseurs, et donc il y a un peu une bataille entre toi, ce que tu peux utiliser, ce que peut utiliser le diffuseur, voire les clubs.
Oui.
C'est un peu vaste comme question, mais
non, mais c'est le cœur du sujet. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, ça a été, et c'est toujours le cœur du sujet.
Ouais.
Je pense que déjà, on avait une vision assez claire de la ligue existe en effectivement déléguant des droits, en revendant des droits télé, en nouant des partenariats commerciaux très forts. Donc effectivement, on va vendre des droits qui vont être exploités ailleurs. Mais à l'époque, il y avait déjà une volonté très forte et qui continue encore, et qui justement continue à prendre de l'importance, même encore aujourd'hui, de se dire que même si ça reste le business premier et que tout est orienté pour que ces deals se passent bien, il y a quand même une volonté, un, de développer une marque, petit deux, de créer des contenus en propre, et surtout de faire ce shift qu'ont notamment fait les ligues américaines bien avant nous et qu'avaient commencé à faire les autres ligues européennes, à savoir d'avoir une vraie stratégie
direct
au consumer. Ouais. On continue à vivre avec des contrats avec des tiers, mais on doit entamer cette mue qui est d'avoir une véritable stratégie direct to fan. Et en fait, on n'a jamais opposé les deux dispositifs. C'est-à-dire que je reste fondamentalement convaincu que ton produit est mieux vendu s'il est bien travaillé en B2C. Et la plupart des ligues y sont arrivées. Donc, il n'y avait absolument aucune raison pour qu'on n'y arrive pas, nous également. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Et ensuite, c'est tout simplement des règles de gestion. C'est-à-dire que on revient souvent ce débat des images de match pendant le week-end. Cette question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des partenaires médias qui payent très cher ce contenu, ils jouissent de l'exclusivité de ce contenu pendant la fenêtre du week-end. Et nous, on a une autre fenêtre d'expression qui est après le week-end. C'est-à-dire qu'on vit comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir une fenêtre qui soit cohérente entre ce que proposent les diffuseurs le week-end et ce que propose la ligue typiquement à partir du lundi à minuit. Mais c'est vrai que même en termes de fonctionnement, il y a des ligues qui ont réussi à avoir un modèle qui est un petit peu plus hybride, où tu as des contenus qui restent en propre et des contenus qui sont effectivement la propriété du diffuseur. Que je pense que ce modèle hybride est en train de prendre beaucoup plus de place parce que les ligues ont compris l'importance de construire une audience en direct. Et pour construire une audience en direct avec tout le funnel dont on a parlé tout à l'heure, à savoir création de contenu, récolte de data et monétisation, il faut pouvoir exploiter du contenu en propre. Et c'est là-dessus qu'on a notamment shifté pour pouvoir créer cette direction du digital. Je pense que la deuxième étape qui est importante, c'est aussi de pouvoir faire rayonner le digital en interne, donc que tout le monde se l'approprie, et qu'effectivement les deux entre guillemets objectifs, c'est-à-dire des objectifs B2B de délégation de droits et les objectifs B2C de développement du marque, de développement de contenu et de développement d'audience, vivent en parallèle.
Tu as parlé du gros shift, tu as parlé de démarche D2C, ça c'est des mots qui sont très récents finalement à l'échelle de la vie de la LFP. Tu pourrais nous restituer un petit peu les 4, 5 ou les 3, 4 grandes étapes clés qui ont pour le coup participé à ce shift. On peut citer l'acquisition d'MPG, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments et peut-être revenir sur ces différentes étapes?
Oui, je pense qu'effectivement déjà, la première c'est que le digital... Alors on parle de digital de manière très large, mais pour moi c'est les plateformes vidéo type YouTube, tous les réseaux sociaux qu'on opère, et aujourd'hui on en opère plus d'une dizaine à l'échelle française et internationale, les acquisitions externes qu'on a pu opérer type MPG qui est par essence un jeu direct to fan.
Prenons déjà le premier, donc l'avènement de plein de plateformes sociales, donc vous ont obligé d'avoir une narration et d'avoir une présence sur toutes les plateformes pour faire du recrutement, pour créer de la visibilité, la notoriété. Donc il y a une volonté de finalement jouer le jeu de toutes les plateformes.
En fait, il y a tout simplement une volonté de jouer le jeu de où sont les audiences qui sont des Captive Football. Donc là-dedans, il y a des, on essaye de voir un petit peu les usages, mais il y a des hardcore fans qui consomment tous les réseaux, qui regardent tous les résumés de matchs. Il y a des fans qui sont un peu plus casual, qui ont une consommation qui est beaucoup plus ponctuelle de football. Mm-hmm. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces plateformes, les GAFA, représentent peut-être 90% du temps passé, du temps d'attention disponible. Donc si on veut exister en tant que marque, on est obligé d'y aller. Donc ça a été... À l'époque, on était beaucoup sur Facebook et Twitter. On a très fortement développé Instagram. Et ensuite, il y a eu effectivement l'avènement de TikTok. Plus récemment, on a eu l'avènement de WhatsApp. On a eu le développement des audiences sur beaucoup de réseaux. Mm-hmm. On a une équipe internationale aussi qui se charge de décliner tous ces contenus sur chaque réseau en langue, dans différentes langues, pour que ce soit localisé. Donc en fait, c'est tout simplement le premier constat, c'est de se dire où sont les audiences et qui, où sont nos fans. Et la première réponse, c'est effectivement sur les réseaux sociaux.
Et du coup, sur ce volet réseaux sociaux, il y a autant de plateformes que de formats que de territoires qui ont du coup permis à la LFP de percoler aussi des modèles publicitaires. Je suppose que vous vendez de l'espace publicitaire sur certaines pastilles vidéo que vous faites dans tel ou tel territoire. Comment ça se passe, cette partie monétisation ?
Le début de la... La première couche de monétisation qu'on avait mise à l'époque, c'était sur YouTube, qui est la plateforme historique de mémoire. Alors moi, je n'étais pas à la Ligue à l'époque, mais les highlights de match sont diffusés le lundi à minuit sur YouTube depuis 2012, il me semble. Mm-hmm. Donc c'est effectivement, entre guillemets, le premier deal digital qu'on a fait. Et ensuite, dans le second étage de la fusée, nous, ce qu'on appelle monétisation, c'est qu'une fois qu'on a commencé à développer notamment tous les autres réseaux sociaux, et aujourd'hui, c'est assez conséquent puisque tout cumulé, juste si on parle que de la Ligue 1, on atteint quasiment les 40 millions de followers agrégés. Donc, ça vaut ce que ça vaut un follower, c'est des doublons, c'est une méthodologie qui peut être très contestable, mais ça reste quand même un bassin d'audience qui est très, très important. Et en fait, nous, la deuxième étape, ça a été de se dire effectivement tous ces réseaux sociaux représentent une audience qui est significative. Et ensuite, on a développé des sites en propre. Avant, il y avait un site lfp.fr qui était vieillissant, non responsive, très mal agencé, très mal organisé. Il n'y avait aucune notion du X sur ce site. Ça a été de créer un site dédié pour la Ligue 1, un site dédié pour la Ligue 2, de développer ces réseaux sociaux. Et le premier élément de monétisation, il a plutôt été de valoriser toutes ces audiences pour les partenaires commerciaux de la LFP. C'est-à-dire qu'on leur donne un statut qui est extrêmement premium. C'est nos audiences digitales. Le premier écrin d'audience qu'on crée est pour vous. Et il est valorisé dans les contrats de sponsoring qui sont signés par l'équipe partenariat.
Donc, première étape, réseaux sociaux, création des destinations web et monétisation pour les partenaires historiques d'espace.
Oui.
Deuxième étape, tu as commencé à l'introduire, c'est notamment l'acquisition d'MPG, mon petit gazon. Est-ce que tu pourrais nous redire ce que c'est MPG et pourquoi vous l'avez finalement acquise ?
Mon petit gazon, c'est le principal jeu de fantasy football en France. Donc, il est très, très connu. Des fans de Ligue 1 et de Ligue 2, et même des fans de football de manière générale. Ils font partie du paysage Ligue 1 depuis de nombreuses années. On avait fait un premier accord de partenariat avec eux. Et c'est vrai qu'en termes de captivité des fans, pour rapidement expliquer peut-être ce qu'est un jeu de fantasy football, c'est je compose une équipe virtuelle et en fonction des résultats de mes joueurs dans la vraie vie,
Je gagne des points.
Je gagne des points. Et dans le cadre de MPG, ce qui était absolument incroyable, c'est qu'ils ont réussi à allier ce côté jeu et ce côté extrêmement copain communautaire. Donc, on joue contre ses amis. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez addictif, quelque chose de communautaire. Donc, pour revenir à la genèse, au moment où on passe sur cette seconde phase d'accélération, dont on pourra reparler après, qui est vraiment la création de la filiale commerciale de la LFP, qui s'appelle LFP Média, se pose effectivement la question de comment on peut avoir une croissance externe. Et je ne rentre pas dans les détails, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément à moi d'en parler, et les trois fondateurs de mon petit gazon en ont déjà beaucoup parlé, mais
je se présente l'opportunité. J'en ai reçu un d'eux ici.
Voilà, donc vous avez pu en parler, mais se présente l'opportunité de pouvoir les racheter. Et c'est une opportunité qui est extraordinaire, parce que petit 1, au-delà du jeu, qui est extrêmement captif, c'est quand même...
La
captivité autour du produit Ligue 1 est très forte, la communauté est très forte, et là, on parle juste des assets. Et il y a quelque chose qui était aussi très important, nous, dans les étages de la fusée qu'on voulait construire dans la structuration du digital. Mon petit gazon, c'est trois fondateurs, c'est Grégory, Benjamin et Martin, mm-hmm. avec toute une équipe qui ont le digital dans le sang, qui mm-hmm. ont créé une application qui est Digital First.
Ouais, qui viennent du digital aussi.
Qui viennent du digital. Ouais. Donc, ils nous font passer un cap qui est extraordinaire aussi en termes de... Pas que de crédibilité, mais surtout d'accélération sur les projets.
Ouais.
Donc, on savait que eux, ils aiment avoir le contrôle de leurs projets.
Ouais.
Ils ont déjà un track record qui est extraordinaire parce que chaque produit qu'ils ont à peu près lancé, je parle de Mon Petit Gazon, mm-hmm. mais évidemment aussi le succès de Mon Petit Prono Mon Petit à l'occasion, Prono, qui va bientôt revenir pour l'euro, mais qui est aussi un produit qui a été extrêmement captif, qui a généré des millions de users en mm-hmm. termes d'audience sur du pronostic. Donc, ils ont ce savoir-faire et dans le au-delà du choix de, entre guillemets, racheter une base de données, une communauté, des gens qu'on va pouvoir beaucoup plus capter ou continuer de faire quelque chose d'assez vertueux autour du produit Ligue 1 mm-hmm. et des communautés MPG, c'était aussi de racheter un savoir-faire qui était tech et produit autour du digital qui nous permettait d'accélérer encore plus vite.
Ouais. Et une belle marque.
Et une très belle marque.
Ouais, qui réussit à capter des gens sans image. super. Troisième étape, c'est peut-être l'avènement de CVC. Est-ce que ça a changé fondamentalement quelque chose au niveau du digital, l'avènement du fonds et donc de l'AFP et les médias? Ou alors peut-être qu'il y a une autre étape qui nous a échappé, qu'on n'a pas encore abordée?
Dans l'ordre, effectivement, sous l'impulsion de la présidence de Vincent Labrune, qui en 2020, très vite... se pose l'opportunité ou la nécessité, on peut voir sous différents angles, mais de vouloir accélérer, et accélérer, c'est créer mm-hmm. Une filiale commerciale, donc qui est un modèle qui au final est assez répandu dans le milieu du sport, mais qui mm-hmm. n'était pas forcément en France. Et pour accélérer, il faut faire rentrer un partenaire. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a eu une phase de sélection. Et à l'issue de cette phase de sélection, CVC a été retenu. Mmh. Ils sont retenus, je pense, parce qu'ils ont déjà ils ont cru au projet.
Ouais. Ils ont un track record dans le sport.
Ils ont un track record dans le sport, effectivement, qui est existant, et je pense qu'ils vont continuer parce qu'on sent qu'ils ont vraiment cette expertise dans le sport.
En football, ils avaient déjà la Liga.
Ils avaient déjà la Liga.
Et c'est tout.
Ils avaient déjà la Liga.
Ils avaient la FIVB.
Ils étaient rentrés dans Six Nations.
Ouais. La Fédération internationale de volley, non? Ils n'étaient pas à la FIVB.
J'ai plus toutes leurs refs. Mais je sais qu'en tout cas, effectivement, il y avait aussi un de leurs premiers projets qui était aussi le projet Formule 1.
Tout à fait. Ils sont à la FIVB aussi.
Et donc, dans cette phase d'accélération, c'est effectivement de trouver un partenaire qui nous permet d'accélérer. Et c'est surtout si je reviens à notre chapelle digitale, c'est un peu une deuxième phase parce que déjà, ne serait-ce que mécaniquement, quand les équipes de MPG rentrent et viennent, on a créé une super BU digitale mm-hmm. à l'arrivée d'MPG. On avait chacun une expertise, donc on s'est un peu réparti nos différentes expertises en fonction du funnel. Donc l'objectif, c'était vraiment de créer une équipe digitale qui soit très complémentaire et qui depuis... est dirigé par Jérôme Cazadieu qui va rejoindre l'équipe. Donc on a voulu avoir cette deuxième phase d'accélération et pour en revenir à l'actionnaire, bien évidemment, il nous a donné des moyens pour pouvoir accélérer. Et je pense que même en interne, au-delà de CVC, il y avait une conviction très forte qu'on pouvait encore accélérer sur le digital.
Ouais.
Et que pour accélérer sur le digital, il faut savoir chercher les compétences là où elles sont.
Et donc aussi, le rationnel pour CVC, qui est un fonds d'investissement donc, qui doit s'y retrouver à un moment donné, c'est qu'il pense et il continue de penser que c'était un produit sous-exploité avec un potentiel économique, que la Ligue était un produit encore sous-exploité ou avec un potentiel d'exploitation beaucoup plus important.
En tout cas, nous, on en est... je vais parler pour moi, parce qu'en l'occurrence, c'est moi qui prends la parole aujourd'hui, mais moi, je reste convaincu effectivement que le produit est sous-exploité. Après... Sur le digital particulièrement, on fait des chiffres de croissance qui sont impressionnants et on a prévu de continuer à faire beaucoup de croissance dans les saisons à venir. Donc c'est pour ça que c'est facile, entre guillemets, d'inscrire le digital dans un BP, parce qu'effectivement, on sait que c'est là où va y avoir des opportunités de croissance et effectivement lier des opportunités de monétisation. Mais en l'occurrence, dans les différents éléments qui ont, je pense, rendu le projet assez sexy et qui ont donné l'envie à CVC de s'investir dans ce projet. Il y avait effectivement le digital en premier lieu, et même sur le sujet Mon Petit Gazon, ils ont été extrêmement supportifs. Enfin, mm-hmm. Désolé, je ne sais pas si on a le droit de dire supportif. Je viens peut-être d'inventer un mot.
Ouais, supportive en anglais, je comprends que tu fasses le...
Et c'est vrai que ça a été... dans l'histoire de mes 6 ans à la LFP, il y a vraiment eu cette première phase qui était un peu le premier coup de boost, mais où on sentait qu'on... On était parti, la roadmap était très ambitieuse, mais on manquait de traction. Mmh. Et là, le projet de création de filiale commerciale, plus l'arrivée des équipes MPG au sein de la filiale, ça a été le plus gros coup de boost qu'on ait connu depuis que moi je suis arrivé à la Ligue.
Ouais. On va rentrer encore plus dans le concret. Tu viens d'expliquer encore plus quel est ton métier. Ça ressemble à quoi, une semaine de Christophe, patron du digital à LFP?
Alors après... Moi, je suis plus exactement patron du digital, parce qu'on s'est...
Avec la réorg...
J'avais une casquette, effectivement.
C'est plus
très
au contenu, désormais.
Directeur digital, exactement. J'avais une casquette très directeur digital, puisque à l'époque, on s'est transformé. On a créé une direction du digital, on a mis beaucoup de choses dedans. Il y avait effectivement de la gestion de produits, il y avait du contenu, il y avait du CRM. Effectivement, moi, depuis qu'on s'est staffé, entre guillemets, donc on a effectivement beaucoup d'experts qui nous ont joints, sur le digital, mais pas que d'ailleurs. Ça a été de se recentrer sur la partie contenu digitaux. Déjà, moi, ma semaine, c'est... en termes d'exigence sur notre grille de contenu, et moi, j'ai de la chance que je suis très bien entouré. L'équipe est staffée pour pouvoir supporter de créer du contenu quasiment mes 24/7. Donc c'est déjà de rythmer la semaine. On sait que notre semaine, elle est rythmée avec je vais la commencer de façon pas tout à fait chronologique, mais on a un avant-match qui commence généralement le jeudi, donc c'est là où on commence à teaser la journée à venir. Effectivement, ensuite on plonge dans le live. Donc quand on plonge dans le live, c'est de faire en sorte que les équipes soit bien réparti entre les gens qui vont travailler sur site, les gens qui vont travailler sur stat, puisque de temps en temps on a des déplacements, quel type de contenu on va poster, sur quelle plateforme on va poster, parce qu'aujourd'hui on a quand même une stratégie de distribution de contenu qui est très 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 complexe. Enfin, notre semainier, faut zoomer sinon il fait mal aux yeux, alors tout ce qu'on va poster sur une semaine. Donc ensuite on rentre sur exclusivement un mode live où là on suit les différents matchs avec une présence en bord terrain qui nous permet de capter en dehors de ce qui nous est permis, enfin dans ce qui nous est permis, pardon, de capter en avant-match et en après-match. Et ça, on fait ça jusqu'au dimanche minuit. Et à partir du dimanche minuit, on passe en post-match quasiment sur une journée et demie, où là, c'est effectivement le bilan de la journée, les meilleurs buts, les meilleurs moments. Ouais. Ça, c'est ce qui...
Ça, c'est vraiment le money time pour vous. Voilà, c'est l'après-weekend, en fait.
Et c'est le moment où on génère le plus de trafic entre le dimanche et le lundi. Et à partir du mardi, on passe un peu dans ce qu'on appelle le milieu de semaine ou le plus froid. Donc c'est là où effectivement, souvent ce qui peut se passer, c'est que si nos clubs jouent en Coupe d'Europe, on va avoir un dispositif de soutien aux Coupes d'Europe. Et c'est souvent là aussi qu'on a une fenêtre de tir un petit peu plus fort pour des contenus partenaires. Donc une grosse partie de notre travail, c'est effectivement de mettre en avant les partenaires. Les partenaires sont venus aussi chez nous pour cet inventaire digital. Donc c'est à nous de les mettre en avant, mais pas que de les mettre en avant de façon bête et méchante. C'est de penser à des contenus qui permettent aux partenaires de bien s'associer à la marque sur le digital.
Ça, peut-être qu'on peut creuser sur cela, parce que ça nécessite un travail éditorial créatif pour inventer des pastilles avec l'inventaire, les archives dont vous disposez, sur lesquelles vous êtes un peu plus libre, et de recréer du froid, enfin du chaud avec du froid, quoi. Je ne sais pas comment on pourrait le dire.
Sur les contenus partenaires, ça dépend de ce que les partenaires ont dans leur package, mais effectivement, il y a des partenaires qui ont la possibilité de s'associer avec du contenu.
Ouais.
Et ce n'est pas forcément du contenu d'archives. On a par exemple des partenaires qui ont... un contenu avec des images de match. Donc, je vais donner l'exemple d'Oris. Oris, ils ont un contenu qui s'appelle Money Time, donc effectivement, vu que c'est un horloger, qui est un peu tous les buts qui ont été marqués sur le gong. On a l'action BKT de la semaine en Ligue 2 et on va choisir la meilleure action. Donc, effectivement, les partenaires peuvent être associés sur de l'image de match. Ils sont associés sur des jeux concours, ils sont associés sur des mécaniques de gamification. Donc, on essaye de trouver des relais qui soient à la fois... engageant et diversifié pour que ce soit pas toujours la même chose. On essaye d'avoir aussi une relation avec eux de co-construction des assets. Donc c'est pas juste eux posent sur la table, on a une super promo, on a envie que vous la relayiez. C'est vous vous adressez à des audiences football. Donc essayons de construire quelque chose qui soit engageant. Et là-dessus on a beaucoup de chance parce qu'on a des partenaires qui sont assez intelligents dans la façon de voir les contenus et qui savent qu'il faut quand même faire un contenu qui soit assez hybride, pas exactement répliquer ce qu'ils font commercialement. Mmh. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect partenaire. Et pour terminer sur notre semaine, il y a aussi un aspect qui est très riche, tu en as parlé, c'est les archives, c'est comment on fait exister nos archives, comment on le relie à l'actualité du moment. Et les archives, souvent, on donne souvent l'exemple de la vidéo de Ronaldinho.
Ouais.
La vidéo de Ronaldinho, on ne le fait pas, mais on pourrait quasiment la poster toute semaine. Et c'est un asset qui est tellement incarnant et qui est tellement engageant qu'à chaque fois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent engager sur ce type de publication.
Tu m'amènes sur le sujet Mbappé, du coup. Quand une grande star qui fait l'actualité tous les week-ends quitte un championnat, c'est quoi la prévision sur les chiffres de performance du prochain exercice pour toi ?
Alors moi sur le digital, je suis pas inquiet.
T'es pas Mbappé dépendant ?
Non, parce que alors je n'oserais pas dire qu'un contenu Mbappé n'engage pas plus. Il y a des contenus Mbappé qui effectivement engagent vu la dimension et l'envergure du joueur. Après, nous, c'est 18 clubs en Ligue 1, c'est 20 clubs et bientôt 18 clubs en Ligue 2. Donc, on a quand même si je me concentre que sur la Ligue 1, de temps en temps, on peut faire quasiment un aussi bon taux d'engagement si on a choisi le bon moment et le bon contenu sur le bon parcours de Brest que sur Mbappé. Après, effectivement,
Mbappé c'est des bangers, quoi.
Voilà, exactement. Il y a du banger. C'est trois postes sur Mbappé, c'est ce qui peut changer les résultats d'une journée.
Ouais.
Mais après, au-delà du... Enfin, je ne commenterai pas l'aspect sportif, mais sur l'aspect purement digital, moi, je suis convaincu que par diverses mécaniques, on réussit à compenser. Et après, bon, il y a quelque chose sur lequel on sera assez dépendant du Paris Saint-Germain, qui est effectivement notre club le plus influent dans les publications.
Et surtout sur l'Inter aussi, parce que je suppose que le départ de Messi ou Neymar, tes petits camarades à l'Inter, ils ont peut-être vu une appétence du produit baisser un petit peu, non ?
Ça se sent, ça se sent. Après, effectivement, on a quand même deux très gros joueurs qui ont quitté le championnat. Après, c'est à périmètre constant, je ne saurais pas dire ce qui se serait passé si on avait gardé Messi et Neymar, mais nos audiences continuent à progresser. Donc on pourrait peut-être que si je voyais le verre à moitié vide, je me disais avec Messi et Neymar, on aurait fait encore plus. Moi, je le vois de façon plutôt à moitié plein. Je me dis que ça veut dire qu'on continue à bien travailler en digital. Et puis après, il y a évidemment un autre aspect, c'est que j'espère que Mbappé sera remplacé par des joueurs de super calibre qui nous permettront aussi de continuer à engager. En tout cas, nous, sur la façon, et je pense que c'est aussi le rôle d'une ligue, de pousser la narration du produit, évidemment, c'est beaucoup, on sait qu'on a des... On appelle ça les bangers chez nous, c'est les
pépites,
les leviers, les espèces de pépites où on sait qu'on fait le moindre poste, ça va cartonner. Donc un poste évidemment autour des plus gros clubs, donc nous le top 3 c'est effectivement Paris, Lyon, Marseille, ce sont les clubs qui engagent le plus, ça va beaucoup plus s'engager. On a une très forte communauté de followers en Afrique, donc le moindre poste sur un joueur africain, beaucoup d'engagement. Il y a une hype récemment sur le Japon et la Corée du Sud, donc le moindre poste avec Ito ou avec Lee Kang-in, le joueur du PSG, ça fait beaucoup d'engagement. Donc on a un peu nos forteresses, on sait que de temps en temps quand l'engagement plafonne un peu, on peut aller les chercher, mais sincèrement je crois pas que le départ d'un joueur va venir bouleverser nos audiences digitales, parce qu'on est en telle hyper croissance qu'on trouvera toujours un moyen de compenser ce qu'on a perdu.
On revient un petit peu sur l'aspect comparable, benchmark. En 2017, tu fais une photo, vous êtes vraiment derrière certaines grosses ligues. En 2024, tu refais une photo, vous êtes vu progresser, vous n'êtes pas encore au niveau d'une première ligue ou d'une Liga. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce que tu vois dans leur stratégie que tu penses vouloir aussi implémenter, ou, tu sais, dans le mix stratégie, qu'est-ce qui font que vous ne faites pas encore ou vous vous apprêtez à faire ?
Je pense que... alors. C'est difficile de pas le regarder sous le prisme des chiffres. Donc pour moi, il y a un élément qui est effectivement purement quanti, qui est que la Première Ligue et la Liga, ils sont très très loin devant en termes de chiffres, donc sur les audiences qui génèrent. La Liga, pour les raisons que j'ai évoquées auparavant, c'est une ligue qui très tôt a pris le virage du digital. Ils ont une roadmap extrêmement ambitieuse qui soutiennent sur le digital, donc ça leur permet d'être très en avance. Et ensuite, ils ont eu un travail d'internationalisation de leurs produits qui a été très forte. Donc, ils sont maintenant ancrés, mais ils l'ont fait en travaillant beaucoup. Je ne dis pas du tout que la Première Ligue n'a pas travaillé. Et j'espère qu'il n'y a pas d'un de tes auditeurs qui ne travaille pas pour la Première Ligue, sinon je vais me faire disputer. Là où la Première Ligue, je trouve, reste le produit sportif le plus haletant, le plus divertissant.
Attractif, c'est clair.
Mais qui, je trouve que
Le Liverpool City d'hier était quand même pas mal. Je ne sais pas si tu l'as eu, mais...
J'ai vu l'highlight, effectivement, ça avait l'air d'être une grosse intensité. C'est plus, ils ont l'avantage de la langue. Donc effectivement, c'est un produit, tu fais beaucoup plus de traction et de conquête quand ta langue, c'est l'anglais qui est la langue la plus parlée dans le monde. Je pense que sportivement, le produit est tellement excitant que tu relais ça sur le digital et ça fait des audiences qui sont absolument extraordinaires. Alors c'est déjà, je dis pas qu'ils ont du mérite, je dis juste que voilà, pour l'avance qu'a pris la Liga et peut-être pour ce que représente la Première Ligue, ces deux-là seront toujours très loin devant.
Ouais, quantitativement.
Après, sur si on regarde le Cali, moi très sincèrement, alors sur souvent on se bench, on regarde ce que les autres ligues sortent sur les réseaux sociaux. Donc en termes de fréquence, en termes de diversification de contenu, en termes d'originalité du contenu, parce qu'au final, quand on est une ligue, certes, il y a la narration du championnat, il y a des images vidéo, mais il faut être quand même beaucoup plus créatif dans ce qu'on crée. Et moi, je trouve que même sur les contenus qu'on vient créer, je trouve que sur la qualité des contenus, alors je suis peut-être beaucoup trop parti pris, mais je trouve qu'on rivalise là pour le coup très largement avec les quatre ligues qui sont, les quatre ligues du top 5 européen. Et après, pour répondre à ta question sur ce qui peut ou va nous inspirer, je pense que déjà, il y a une première étape qu'on a franchie, c'est de se staffer, encore une fois. Donc, notre réorganisation ou l'arrivée de MPG, elle est plutôt assez récente sur le digital. Donc, on a besoin que la mayonnaise prenne. Il y a des nouveaux assets qui vont sortir très vite, donc des nouvelles plateformes propriétaires Ligue 1. Qui vont être très vite annoncés. Et ça, c'est des choses qu'on a réussi à sortir très vite grâce à l'arrivée de MPG. Mais je pense qu'il y a déjà le staff, donc comment le staff contribue à nous faire monter d'un cran. Et la Liga, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils sont extrêmement staffés aussi sur le digital. On était allé les rencontrer une fois à Madrid. Enfin, c'était... quand on regardait leur organigramme, on se disait « mais on aimerait avoir la même force de frappe ». Donc ce meeting à Madrid, c'était en 2019, donc c'était il y a 4 ans. Je pense que depuis, nous, on s'est aussi beaucoup staffé. Et on a pas récupéré tout notre retard, mais on a quand même commencé à le rattraper. Donc il y a vraiment ça, il y a les chiffres, donc purement l'audience. Et sur l'audience, aujourd'hui, je le disais, la Première Ligue et la Liga sont devant. Mais on fait jeu égal avec la Bundesliga et la Serie A, on a un espèce de petit podium où on bench un peu nos audiences. Mais après, il y a beaucoup de choses à aller chercher chez eux. La Serie A, je trouve qu'ils étaient un petit peu derrière, mais en termes de création de contenu, ils ont une très forte accélération récemment. Et je trouve que ce qu'ils sortent, c'est très propre, c'est très quali. Et pour reprendre notre terme qu'on aime bien de banger, ils sortent de plus en plus de banger. Et pour le coup, et ça, c'est une conviction assez personnelle, la Bundesliga, moi, c'est toujours la ligue qui m'a pour lequel j'ai le plus d'admiration, parce que je trouve que très tôt ils ont trouvé la bonne organisation. Donc ils ont créé une filiale dédiée sur le digital il y a déjà plusieurs années, DFL Digital, qui inclut toute la partie création de contenu, développement des audiences. Donc ils ont créé un ensemble qui est très cohérent. Et qui leur permet d'avoir une vraie crédibilité en interne, parce que quand on crée une filiale dédiée sur le digital, ça veut bien dire que le digital a une place importante depuis longtemps. Et ils ont surtout une stratégie aussi qui est extrêmement cohérente entre leur stratégie typiquement réseaux sociaux et leur stratégie plus propriétaire de comment on fait redescendre les fans chez nous. Et ça, c'est une source d'inspiration, parce qu'un des gros sujets sur lequel on travaille, c'est justement comment être totalement cohérent entre ce qu'on envoie sur les réseaux sociaux, donc ce que tout le monde peut voir, et ce qu'on va proposer comme services digitaux une fois qu'on fait venir les gens chez nous. Et ça, c'est vraiment si on a un axe de développement à retenir sur comment on veut faire performer nos digitales en interne, c'est ça, c'est d'avoir une stratégie qui est cohérente du premier point de contact au dernier point de contact.
Restons un petit peu sur ça, sur cette stratégie très direct to consumer. Comment, toi, tu vois la cohabitation entre, en effet, la cession des droits à des diffuseurs qui ont des énormes empreintes Amazon, Canal, et qui font l'acquisition client, versus vous, votre ambition d'avoir une acquisition client? Est-ce que dans 10 ans, la LFP aura plus besoin d'un Canal ou d'un Amazon et diffusera sur sa propre plateforme OTT, direct to consumer? Est-ce que ça, c'est une histoire qui peut arriver ou tu n'y crois pas du tout?
Alors moi, je ne suis pas vraiment spécialiste des droits médias. C'est sûr qu'en termes de... C'est une tendance, mais je trouve qu'on n'entend pas nécessairement que à la LFP, c'est quel est, est-ce que ça devient un impératif de développer soi-même ses audiences pour pouvoir se préparer à un éventuel Big Bang où un jour, bah, il n'y a peut-être pas ou plus de diffuseurs. Moi, je reste très... Enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en termes de... Aujourd'hui, on a des diffuseurs qui ont une offre de contenu qui est très bien structurée chez eux. Mmh. Et nous, on vient pour faire exister la marque autour de ça. Donc, l'appel d'offres droit télé est en cours, donc je ne sais pas exactement quelles vont être les mécaniques de construction pour la saison prochaine. En revanche, ce qui est certain, c'est que je sais pas. Je sais pas si un jour on aura plus de diffuseurs. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui existent où ce sont des modèles hybrides avec un diffuseur premium et des plateformes digitales qui continuent, enfin qui existent pour pouvoir en baser, proposer du service additionnel. Mais je pense que ce qui est aussi important à retenir dans notre offre de valeur, au-delà du contenu, nous aujourd'hui, et je pense que c'est tout le sens d'avoir structuré un vrai pôle digital, et c'est tout le sens de l'acquisition de Mon Petit Gazon, c'est qu'aujourd'hui on a une proposition de valeur aux fans qui va au-delà de regarder les matchs et de la diffusion des images de matchs, qui est vraiment de comment on engage un fan de football aujourd'hui du lundi au dimanche. Ouais, ouais. Et je pense que dans cette fenêtre de tir, évidemment, la Ligue a un rôle à jouer pour avoir des services digitaux à proposer aux fans, une valeur ajoutée. Et pour moi, encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont tout à fait complémentaires avec une offre diffuseur, comme ce sont des dispositifs qui sont complètement complémentaires à une offre de partenariats commerciaux. Tout ce qu'on construit aujourd'hui, il faut se dire que ça peut être un apporteur de trafic ou quelque chose d'assez complémentaire qu'on peut construire avec les diffuseurs. Moi, sur nos plateformes aujourd'hui, on fait des redirects sur les diffuseurs. On met les diffuseurs en avant sur la plupart de nos publications parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le premier écran de visibilité de nos compétitions. Ça reste la télé, même si le digital a pris beaucoup d'importance. Et pour moi, la clé, ce sera de pouvoir... c'est de trouver la stratégie qui soit cohérente pour faire exister les deux. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu à ta question un jour, est-ce qu'il y aura un Big Bang ? Parce que franchement, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas assez expert en la matière. En revanche, qu'il y ait de plus en plus de synergie entre un écosystème digital propriétaire et des diffuseurs, mais ce n'est même pas que ça va arriver, c'est que c'est déjà arrivé ailleurs. Donc, nous, on a tout intérêt à construire quelque chose de similaire.
Ouais. Tu parlais d'ailleurs. On dit souvent que les ligues américaines sont hyper en avance sur la monétisation du moindre espace. Qu'est-ce que tu regardes ? Est-ce qu'il y a une ligne en particulier que tu regardes ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous avez empruntées à certaines ligues nord-américaines ? C'est quoi un petit peu ton regard sur nos amis américains ?
En tout premier lieu, évidemment, la NBA. Je pense qu'il n'y a pas peut-être pas une semaine, mais un mois où on n'est pas en train de se transférer une news côté NBA qui peut être un partenariat avec un pool de start-up typiquement, une nouvelle plateforme qui sorte. On est en pleine refonte de notre application mobile Ligue 1 et évidemment on s'inspire déjà de ce qui est sorti et je pense que la NBA c'est la ligue nec plus ultra en termes de servicing aux fans sur le digital, donc évidemment on s'en inspire et encore une fois je pense qu'on regarde ce qui sort sur la partie propriétaire, donc sur les assets propres. On regarde beaucoup ce qui sort sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis d'un œil assez attentif, évidemment, la partie innovation. Parce que si on essaye de considérer ou de réduire le gap les États-Unis ont de l'avance sur nous, c'est de se dire que c'est des tendances qui arrivent. Donc, je pense qu'on a tendance à rattraper le retard maintenant, parce qu'on a la capacité à faire un peu plus de veille et parce qu'on est beaucoup plus réactif sur le digital. Mais en tout cas, nous, la NBA en premier lieu. Et moi, j'avoue, je regarde aussi ce que sortait et ce que sort toujours la Major League Soccer parce qu'ils ont, pareil, un écosystème extrêmement intégré sur le digital, donc même avec le nouveau deal télé qu' ils ont signé avec Apple, sur leur plateforme, il y a une mise en avant d'Apple qui est assez smart, mais qui reste quand même un écosystème entre guillemets propriétaire où ils veulent continuer à capter des fans à travers juste du contenu, mais ils ont aussi de la gamification. Ils ont des contenus qui sont un peu originaux. Après, c'est un format de compétition qui est un peu différent du nôtre. C'est une gouvernance qui est différente de la nôtre. Mais oui, moi, si je devais citer mes deux refs, alors je ne suis pas encore assez fan de NHL et de baseball pour aller regarder, mais on a une veille sur les principaux sites, okay. On regarde ce qui sort, et quand on a l'opportunité de leur parler pendant des salons ou quand on peut nous faciliter des rencontres, on les rencontre, parce qu'effectivement c'est et même pour rebondir sur ta question, parce que c'est quelque chose que je dis souvent, on a toujours tendance à vouloir s'inspirer des ligues qui sont entre guillemets plus grosses ou plus avancées que nous. Moi, dans les échanges que j'ai, notamment en France, souvent, j'ai des échanges avec d'autres ligues, qui sont des ligues qui potentiellement ont entamé leur mu digital après nous, mais je trouve qu'on a pris des décisions hyper smart sur un point en particulier.
Ouais.
Donc ça pouvait être sur le, entre guillemets, feu Web3 ou sur l'embasement, sur un programme de fidélité, sur des contenus réseaux sociaux, sur la façon de traiter la vidéo. Et du coup, on essaye de garder... moi, j'ai des échanges assez réguliers avec mes homologues dans les autres ligues, parce que dès qu'ils sortent un truc que je trouve chouette, on se parle. Et ils font la même chose. Donc, c'est, je trouve que c'est quelque chose, et peut-être qui est propre au digital. J'ai souvent coutume de dire qu'on peut regarder l'inspiration ailleurs. Ça vaut pour les clubs. Moi, je trouve que les gros clubs m'inspirent, mais il y a beaucoup de clubs plus petits ou moyens qui n'ont pas les mêmes moyens sur le digital que des gros clubs, qui sortent des trucs que je trouve très innovants ou très engageants. Donc, c'est aussi de... On regarde ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je pense que déjà en Europe, alors je ne dis pas qu'on a rattrapé notre retard, mais je trouve qu'on est quand même bien meilleur sur le digital. Et même moi, en 6 ans de mandat à la LFP, l'état du digital à l'intérieur de la Ligue et l'état du digital à l'intérieur des clubs, c'est le jour et la nuit.
Ouais.
Donc il y a quand même eu une vraie montée en gamme et une vraie amélioration à ce niveau-là.
Super. Les petites questions de la fin, traditionnelles. Quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention ces derniers temps? Hors LFP, parce que la LFP est sous le feu des projecteurs constamment, mais donc autre chose que la LFP peut-être.
Ouais, c'est une très bonne question. Bah, je trouve que sur le... Ce qui avait attiré mon attention, alors je serais incapable de citer les diffuseurs parce que je l'ai vu passer loin, mais c'est plutôt un deal qui s'est fait US où il y a plusieurs diffuseurs majeurs qui se sont mis ensemble pour faire un espèce de gros Netflix du sport, quelque chose dont on entend, enfin voilà, on a l'impression que dans l'imaginaire collectif c'est un espèce de fantasme.
C'est Jean-Michel Aulas qui a eu l'idée le premier, n'est-ce pas?
Et il y a eu effectivement ce premier move, donc à voir ce que ça va donner. Et après, moi, c'est pas tant lié au digital, mais c'est plus sur le football féminin. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez... on sent que ça se professionnalise. Nous, de temps en temps, on a, en ce moment, on fait typiquement des échanges avec la Fédé pour essayer de un exemple tout bête sur des matchs où il y a le même match des masculins et des féminines sur le même week-end, on fait un post tous les deux ensemble pour mettre en avant la D1 Arkema et la Ligue 1 Uber Eats sur le même visuel, mais en tout cas on sent qu'il y a une traction, on sent qu'il y a quelque chose, donc je regarde ça d'un œil assez curieux parce que je même, alors pas que d'un point de vue digital, mais je trouve que moi j'aime bien regarder l'espèce d'apprentissage que font les ligues, en fait le parcours qu'on a eu nous il y a quelques années pour grandir. J'aime bien regarder ce que font les autres ailleurs, et c'est vrai qu'en ce moment je suis particulièrement attentif à ce qui se passe côté football féminin.
Super. Dans ton projet, dans ta mission, et un petit peu dans la stratégie globale de l'AFP, qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur votre capacité à accomplir ce que vous êtes écrit?
Alors optimiste, alors moi je reste fondamentalement convaincu que le produit Ligue 1 est un super produit, mais encore une fois, je travaille à la Ligue, deux, j'ai toujours été fan, donc je pense que je serai supporter de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de mes jours. mais je pense que ce qui me rend quand même naturellement positif, c'est qu'on a souvent entendu des choses qui sont... Les jeunes s'intéressent moins au football, ils sont sur leurs écrans, ils consomment du contenu. Alors c'est vrai, de façon totalement effrénée, donc ils vont peut-être consommer un contenu de football comme n'importe quel type de contenu. Nous, cette année, on a quand même des audiences digitales qui sont encore en hyper-croissance. Enfin, on fait des croissances à deux chiffres depuis plusieurs saisons. Et cette année, on va peut-être enregistrer encore la plus forte croissance digitale. Et c'était déjà l'année dernière la plus forte croissance digitale. Donc, on continue à fortement croître. L'autre point que je trouve hyper positif, c'est l'affluence dans les stades. Donc, on est au deuxième ou troisième record battu en termes d'affluence en Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est... Les gens vont moins dans les stades. Ben non, les gens sont toujours hyper à fond. Et c'est vrai que ça quand on voit l'engouement, qu'il soit juste dans les stades ou qu'il soit juste digital, moi, ça me fait dire qu'effectivement, il y a toutes les perspectives de croissance et les ambitions qu'on a sur le développement du produit vont se réaliser parce que le football reste et restera un des produits les plus engageants ever. Et c'est quand même le football qui nous met dans des états pas possibles, que ce soit up ou down. C'est le premier spectacle vivant de France. Enfin, c'est quand même quelque chose de... Bon, je parle encore un peu avec la casquette du fan de football.
Ouais, c'est ça.
Mais, mais ça, c'est pour le côté très optimiste, où je me dis qu'on va y arriver parce que le produit a encore une grande marge de progression.
Ouais. Et le pessimisme, alors ? Je ne suis pas beaucoup de pessimiste au podcast, mais bon, j'essaie de tirer les angoisses des gens, tu vois.
Non, le pessimisme... c'est pas tant le pessimisme, je pense que c'est un challenge qu'on se doit d'adresser, mais que je trouve qu'on a beaucoup adressé dans les dernières saisons. C'est quand on travaille au sein d'une ligue, on travaille, c'est vrai, dans un environnement qui est très médiatiquement contrôlé, mais on est tellement sous le feu des projecteurs, il y a tout le monde qui vient commenter l'actualité de la LFP en permanence, qu'effectivement on fait très attention à nos prises de parole. Et évidemment le digital, c'est le premier lieu où on prend la parole. Et c'est vrai que là-dessus, l'époque où j'étais un petit peu pessimiste, c'était de me dire on sera toujours un peu contraint de rester dans notre communication assez neutre, consensuelle. Voire même sur certains contenus un peu sans saveur. Et ça, pour le coup, je sais pas si c'est parce qu'on a réussi à embrasser des codes, si c'est parce qu'on a une nouvelle impulsion qui nous permet de prendre un petit peu plus de risques dans la promotion du produit. Mais ça a beaucoup changé. On a un positionnement qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'on a une communication qui est partisane, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Mais on a une communication qui est beaucoup plus engageante. Donc, c'était, je pense, un point sur lequel j'étais assez pessimiste, mais sans pour autant être complètement défaitiste.
Ouais.
C'était de se dire, en fait, quand on travaille au sein d'une ligue, il y a ce niveau de vigilance qu'on doit avoir. Mais je trouve qu'on est un peu, on n'est pas totalement en train de s'en défaire, on fait toujours attention. Mais par contre, on prend beaucoup plus de liberté sur les contenus qu'on sort. Et ça, je trouve que c'est une vraie marge de progression qui est assez significative.
Ok. Dernière question. Qui t'aimerais que j'invite dans ce podcast et écouter son récit, sa trajectoire, son expertise?
C'est une très bonne question. Après, t'as déjà invité beaucoup de monde.
Mais bon.
Surtout dans notre écosystème. J'ai le droit de dire un truc qui est complètement impossible.
Bien sûr.
Mais il faudrait que t'aies Pep Guardiola.
Ouais. Voilà. T'étais the first one à me le dire. Et sky is the limit. Hein. Why not? Un jour.
Ou Kylian Mbappé, si un jour il doit partir. Voilà. Ça va être plus compliqué. Mais...
Ouais, ouais. Bah écoute, je prends. J'espère que t'as leur 06 pour me faire l'intro, parce que...
Alors non, j'ai pas leur 06, mais... Non, mais en plus, de façon beaucoup plus... Alors, il a beaucoup été sollicité ces temps-ci, mais nous, on vient de faire un documentaire qu'on vient de publier justement sur nos plateformes à son sujet. C'est Will Steele, l'entraîneur du Stade de Reims.
Super.
Qui a un parcours assez fou, qui est, je trouve, en plus très à l'aise devant une caméra. Il est jeune, il incarne quelque chose. Donc, je pense que sans peut-être viser l'ambition d'avoir un Pep Guardiola ou un Kylian Mbappé, c'est peut-être moins lié sport-business.
Ouais.
C'est plus vraiment très sportif. Mais je trouve que lui, ça peut être un très, très bon client pour ton podcast.
Super. Merci beaucoup, Christophe.
Bah, merci à toi.
Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.